Bienvenue si vous nous rejoignez, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Comment libérer totalement la ville de Raqqa en Syrie des djihadistes tout en épargnant les civils pris au piège? Des pourparlers ont débuté entre des représentants de la coalition menée par Washington et un exécutif local.
Pas question de négociation en Espagne. Le gouvernement donne une semaine, pas plus, au président catalan pour clarifier sa position. S'il persiste à déclarer l'indépendance, la région pourrait perdre son autonomie. Lassitude des Catalans, vous l'entendrez.
Dans ce journal également, le scepticisme d'un économiste après les annonces d'Emmanuel Macron. Le président veut partir des coûts de revient des agriculteurs pour fixer les prix des produits, mais il ne prend pas en compte le marché européen.
Emmanuel Macron, qui reçoit par ailleurs les syndicats à l'Élysée dès aujourd'hui, ils parleront formation professionnelle et apprentissage.
Dans un quart d'heure, Frédéric Saïs reviendra sur les hésitations du parti Les Républicains face à ses membres qui ont rejoint le camp Macron. Billet politique intitulé « La tragicomédie des exclusions ». 8000 civils pris au piège à Raqqa en Syrie, séquestrés par le groupe État islamique, pris au piège donc surtout au milieu des combats. Les djihadistes ne contrôlent plus que quelques poches autour du stade de la ville et de l'hôpital national. L'assaut final est proche, mais il faut avant cela mettre cette population à l'abri. Des discussions sont donc engagées au Marwaman.
C'est le sort de milliers de civils, hommes, femmes, enfants qui est en jeu. Mohamed Nezer, un activiste syrien originaire de la région.
Cette dernière phase avant la libération totale de la ville est la plus difficile, car il y a ces milliers de civils pris au piège. Les djihadistes les retiennent en otage et menacent de tout faire sauter si on ne les laisse pas partir avec leurs armes légères.
Et pour épargner des vies humaines, des discussions seraient en cours, ce que confirme le porte-parole de la coalition internationale, le colonel Ryan Dillon, joint à Bagdad.
Oui, le conseil civil de Raqqa mène des discussions avec des chefs de tribus locales pour déterminer le meilleur moyen de permettre aux civils de quitter la ville en toute sécurité.
Et ces discussions auraient abouti à un accord pour permettre aux combattants étrangers et à leurs familles de rejoindre la province voisine de Deir ez-Zor. Mohamed Nezer.
Cet accord prévoit que les combattants syriens soient arrêtés et placés sous la responsabilité des tribus locales. Mais le problème, ce sont les combattants étrangers. Les États-Unis refusent qu'ils soient évacués vers un autre endroit. Les chefs de tribus insistent pour sauver des vies, mais la coalition veut qu'ils soient tous arrêtés et mis hors d'état de nuire.
Et entre 5 et 600 djihadistes, dont une majorité d'étrangers, se trouveraient encore à Raqqa.
Le groupe État islamique résiste donc dans les derniers réduits de leur ancien bastion. Il frappe aussi insidieusement dans la capitale, plus au sud. Un triple attentat a fait hier 2 morts et 6 blessés à Damas. Attaque revendiquée par Daesh. Un dirigeant africain accroché à son pouvoir. Nouvelle illustration en République démocratique du Congo. Il n'y aura pas d'élection présidentielle avant 2019 pour remplacer Joseph Kabila. Son deuxième mandat a pris fin en décembre dernier. La Constitution ne lui permet pas de se représenter, mais la commission électorale évoque un recensement en cours dans le pays. Kabila gagne donc au moins 2 ans de plus au pouvoir en RDC.
8h03 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La réponse du gouvernement espagnol aux autorités catalanes était attendue et elle a été cinglante.
Hors de question de négocier avec le président catalan, Carles Puigdemont. Madrid lui donne une semaine pour clarifier sa position, indépendance immédiate ou non. Le Premier ministre Mariano Rajoy prévient, si jeudi prochain, Carles Puigdemont continue de parler d'une catalogue indépendante et souveraine, les autorités espagnoles prendront le contrôle de la région. L'article 155 de la Constitution le permet. D'ici là, Espagnols et Catalans pourraient souffler un peu, jour de fête nationale ce jeudi dans le pays. Pourtant, Mathilde Dehimi, les Catalans fatigués moralement la vivront un peu différemment cette année.
Il y a eu le jour du vote, les tensions, puis l'attente, des manifestations et de la déception. Santi sera bien une des seules à ne pas faire de pause. À 65 ans, elle commémore la fête nationale à Barcelone.
J'ai toujours vu le cortège depuis le balcon. C'est la première année que je ne vais pas rester dessus. J'y vais avec mes drapeaux, l'espagnol et le catalan.
Cette semaine a été éprouvante, reconnaissent Jordi et Montse. Ils sont indépendantistes et ne voient toujours pas où le chef du gouvernement espagnol veut en venir.
Ce discours vient de loin, mais ils n'ont jamais vraiment dit concrètement ce qu'ils voulaient, au moins qu'ils parlent, qu'ils disent des choses pour avancer.
À partir du moment où on a déclaré cette indépendance, demander maintenant qu'on réforme la Constitution, pour nous, je crois que c'est un peu trop tard.
Pérez tenait à écouter le discours de Mariano Rajoy, mais il sature.
Pas seulement moi, mais tous les Catalans. Nous en avons par-dessus la tête. Le plus grave, c'est la fracture sociale qui est en train de se produire, pas seulement entre la Catalogne et le reste de l'Espagne, mais au sein même de la société catalane, dans les familles, les entreprises, entre amis. C'est un sujet délicat à aborder qui peut générer des moments difficiles.
Selon Weekend, va faire du bien à tout le monde. Les politiques continuent leurs consultations, tentent de lever les ambiguïtés en attendant ce nouvel ultimatum la semaine prochaine.
Mathilde Dehimi à Barcelone pour France Culture. Je sais exactement ce que je vais annoncer concernant le dossier sur le nucléaire iranien. Interrogé sur Fox News cette nuit, Donald Trump a fait durer le suspense, petit sourire aux lèvres, tout en dénonçant une fois de plus cet accord conclu entre Téhéran et les grandes puissances. Le président américain doit s'exprimer publiquement sur le sujet d'ici dimanche et pourrait ne pas certifier le texte, estimant qu'il penche trop en faveur de l'Iran. L'accord vise, je vous le rappelle, à garantir le caractère pacifique et civil du programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions. Les États-Unis toujours, où le bilan ne cesse de s'alourdir en Californie. 21 morts annoncés ce matin. L'État de l'Ouest américain affronte des incendies gigantesques depuis quelques jours. Des vignobles entiers sont ravagés dans des régions réputées, notamment comme la Napa Valley. Là, il ne s'agit pas du climat qui dévaste la végétation, mais de l'homme. Au Brésil, dans la forêt amazonienne, malgré l'annulation du décret d'exploitation minière, le président brésilien Michel Temer est toujours accusé de vouloir déboiser une partie de la forêt. Cette semaine, de célèbres leaders autochtones ont écrit une lettre ouverte dans le pays. Ils alertent sur un génocide, disent-ils, qui se déroule en ce moment. Fin de citation. Ils appellent donc à une mobilisation commune des tribus indiennes, Nadine Epstein.
Ces chefs indiens, activistes réputés et respectés pour la défense des droits des indigènes, demandent aux membres des 200 tribus autochtones de protester ensemble contre le gouvernement brésilien et sa politique de développement économique. Notre gouvernement est en train de nous détruire au nom du profit et du pouvoir. Notre terre est volée, nos forêts sont brûlées, nos rivières polluées et nos communautés dévastées. Les membres des tribus isolées sont régulièrement agressés et tués. Il y a urgence, alerte-t-il aujourd'hui. De grands propriétaires terriens et des multinationales qui chassent manu militari les indigènes de leurs terres, des massacres qui sont organisés contre des travailleurs ruraux, la police qui est suspectée de complicité, des agressions à la machette, il y a chaque année des dizaines de membres de tribus assassinés. Depuis qu'il a remplacé Dilma Rousseff à la tête du pays, le conservateur Michel Temer laisse la droite et le parti des grands propriétaires relancer leur mainmise sur les terres des autochtones. Outre les constructions d'infrastructures, de transports et de grands barrages, qui ont empiété sur les terres indigènes, l'agrobusiness, avide d'espace, de ressources minières et forestières, convoite les terres indiennes.
Emmanuel Macron n'exclut pas de légiférer de nouveau par ordonnance. Il annonce une réforme rapide pour rééquilibrer les contrats commerciaux entre agriculteurs et distributeurs d'ici le premier semestre 2018, l'année prochaine. Dans son discours donné hier à Rungis, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, le président a notamment fustigé les prix anormalement bas des produits agricoles. Il souhaite donc une contractualisation rénovée avec un contrat donc proposé par les agriculteurs et non plus par les acheteurs. Nous l'évoquons ce matin avec nos invités sur France Culture, un bien joli tableau qui satisfait dans l'ensemble les principaux acteurs, mais ne serait-il pas trop beau ? Emmanuel Macron est notamment resté très flou sur la réforme de la PAC, la politique agricole commune. Vincent Châtelier, économiste à l'Institut National de la Recherche Agronomique, se veut sceptique au micro de Stanislas Vazak. Difficile, dit-il, de garantir le juste prix aux producteurs français alors que notre agriculture dépend du marché européen. Exemple à l'appui.
Aujourd'hui, les produits qu'on consomme en France viennent de France, mais viennent également de l'étranger, surtout de pays européens. Je vais prendre deux exemples. Dans le secteur de la volaille, on a à peu près 45% de l'ensemble de la consommation française de volaille qui résulte de produits importés. Et dans le secteur du lait, inversement, on a 42% du lait français qui est exporté, puis 23% de la consommation intérieure qui est importée de pays voisins. Ça veut donc dire que la France est vraiment un pays très connecté avec ses autres pays partenaires et qu'il faut donc faire attention quand on met en œuvre des politiques publiques au niveau national, à ce qui est envisagé, à ce que finalement il y ait une bonne résonance avec ce qu'on a engagé dans le cadre plus global de la politique agricole commune. Et quelque part dans les états généraux de l'agriculture, on parle beaucoup des marges de manœuvre locales, mais on a tendance parfois à les dissocier un peu des jeux concurrentiels qui ont lieu au niveau européen, et ça peut être risqué à terme. Si les prix d'achat des matières premières alimentaires deviennent substantiellement plus coûteuses sur le marché domestique, il y a fort à parier dans le monde qu'on connaît qu'un certain nombre d'acteurs, notamment les centrales d'achat, aillent s'approvisionner ailleurs. C'est-à-dire qu'on serait gagnant au niveau des prix pour les agriculteurs, mais de l'autre, on pourrait perdre à long terme en volume.
Vincent Châtelier, économiste à l'INRA sur France Culture.
Et on continue à en parler avec nos invités, la géographe Sylvie Brunel, qui ne veut pas que je la présente comme une partisane de l'agriculture intensive, mais comme une partisane de l'agriculture compétitive, dont acte. Et le secrétaire général de la Confédération Paysanne, Nicolas Giraud, qui, comme vous l'avez peut-être entendu, est effectivement plutôt satisfait des annonces d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui va lancer, Clara, sa deuxième vague de réformes sociales.
Pas question pour lui de lever le pied. Le chef de l'État reçoit l'ensemble des partenaires sociaux à l'Élysée aujourd'hui et demain. Même méthode que pour le Code du travail. Au menu cette fois, assurance chômage et formation. À digérer rapidement, si possible, pour une loi adoptée l'été prochain. En guise de hors-d'œuvre donc cette semaine, l'apprentissage et la formation professionnelle presque indigestes, Annabelle Grelier.
Ces deux dossiers sont tout d'abord complexes et techniques. En ce qui concerne l'apprentissage, il s'agit de rendre le dispositif beaucoup plus attractif. Il ne remporte pas en France le succès escompté. Le gouvernement Hollande avait fixé l'objectif à 500 000 contrats d'apprentissage. Malgré aide et incitation, les effectifs d'apprentis plafonnent autour des 420 000. Trop de paperasserie et lourdeur administrative, entend-on souvent dire du côté des employeurs. Le gouvernement veut désormais valoriser ces contrats en augmentant les aides et en simplifiant leur financement. Il souhaite également impliquer les partenaires sociaux des branches professionnelles dans l'élaboration des contenus pédagogiques. Sur la formation professionnelle, le gouvernement veut renforcer les droits individuels à la formation des actifs en s'appuyant sur le compte personnel de formation, le CPF, créé par la loi travail de 2014 et mis en place au 1er janvier dernier. Les partenaires sociaux vont y regarder à deux fois, car cette évolution risque d'entamer leurs prérogatives. Une partie des cotisations formation des entreprises, aujourd'hui collectées et gérées par des organismes paritaires, pourrait en effet être réorientée pour financer directement le compte personnel de formation. Munis de leurs droits individuels, les actifs pourraient ainsi s'adresser aux prestataires de formation sans aucun intermédiaire. Un projet de réforme donc délicat, car s'il vise a priori l'amélioration des droits des salariés, il pourrait limiter l'influence des partenaires sociaux.
Quatre prétendants à la présidence du parti Les Républicains, le favori Laurent Wauquiez, mais aussi Maëlle de Calan, Daniel Fasquelle et Florence Portelli ont obtenu le nombre de parrainages suffisant. Les militants se prononceront mi-décembre. Ils avaient mis la population et les autorités en garde en début de semaine face aux risques sur la sécurité nucléaire en France. Les militants de Greenpeace l'ont prouvé ce matin. Ils ont tiré un feu d'artifice dans le périmètre de la centrale nucléaire de Cattenom en Moselle, avant d'être arrêtés quelques minutes plus tard par les gendarmes. La fin des voitures à essence dans Paris, c'est pour 2030. Anne Hidalgo entend ainsi anticiper de 10 ans les directives gouvernementales. Information de nos voisins de France Info. Après la fin des voitures diesel en 2024, 2030 sera donc une nouvelle étape cruciale dans la lutte contre la pollution. Écologie toujours, avec les suites des Monsanto Papers, ces documents internes aux géants américains des pesticides révélés par la justice américaine en mars dernier. Monsanto manipulerait les études scientifique sur le glyphosate, herbicide présent dans le Roundup notamment, est décrié. Au Parlement européen hier à Bruxelles, une audition publique avait lieu, mais Laxmilota, plusieurs eurodéputés dénoncent le poids de certains experts du glyphosate.
Nous voici au bout de 3h30 de débat et nous n'avons toujours pas avancé pour prendre une décision, ont regretté plusieurs eurodéputés. Parmi eux, Frédéric Ries, du groupe des démocrates et libéraux.
Les experts se contredisent, les experts ont des conflits d'intérêts. Les ONG ont montré maintenant que dans les agences européennes, ce serait 46% des experts qui sont censés nous éclairer, qui auraient à un moment donné ou à un autre un conflit d'intérêts dans la conclusion qu'ils nous proposent.
Le principal acteur concerné dans ce débat, le groupe Monsanto, a tout simplement refusé de se rendre à cette audition et de s'expliquer devant l'Assemblée. L'EFSA, l'Agence européenne pour la sécurité des aliments, a conclu que l'herbicide glyphosate n'était pas cancérigène, alors que l'Organisation mondiale de la santé affirme qu'il est un cancérigène probable. Pourquoi ces différences, questionne une eurodéputée. Éric Andrieux, élu socialiste, s'interroge lui sur les révélations de plusieurs ONG.
Pensez-vous qu'il soit scientifiquement acceptable que le rapport de l'Agence européenne de sécurité des aliments accepte, vous avez fait référence, les copier-coller de passages entiers d'un document déposé en 2012 par la firme Monsanto.
L'EFSA aurait utilisé une étude menée par Monsanto pour écrire son rapport final. C'est la procédure normale, se défend l'agence. L'EFSA se base sur des rapports d'industriels. Les conflits d'intérêts sont flagrants, constate Martin Pigeon de l'ONG CIO qui étudie les lobbies. Plusieurs eurodéputés demandent à présent la mise en place d'une commission d'enquête sur le glyphosate.
Et l'Union européenne doit décider donc avant la fin de l'année si elle renouvelle ou non et pour combien de temps la licence de l'herbicide. Quelques mots de la météo en France. Humide de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'au nord de l'Alsace, entre nuages et fines pluies aujourd'hui. Un ciel plus lumineux partout ailleurs. Les températures toujours assez fraîches. 14 degrés ce matin à Caen, 15 à Besançon, 17 à Rennes et Lyon. La maximale, Guillaume, ce matin ce sera à Saint-Tropez.
C'est vrai. Degrés. C'est vrai, c'est une ville qui vous est chère, je crois, Clara.
Pas du tout.
Enfin, ce week-end.